une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir sur notre plateau Aude Léa Rapin, réalisatrice du film Planète B, Eliane Humurir, je ne sais pas si je prononce bien, qui est comédienne dans ce film, et Eve, qui est la productrice. Alors bonjour à vous les filles, comment ça va ?
Bonjour, ça va.
Ben moi ça va, j'ai perdu ma voix, mais sinon ça va.
Eh ben, très bien, donc on va discuter de ce nouveau film Planète B qui sort le 25 décembre au cinéma, si je ne me trompe pas. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être un peu chacune vous présenter et oui, dire un petit mot sur vous ?
Tu commences, Eliane ?
Alors, ben merci. Donc je suis Eliane Humuir et Humuire, comme on dit en Kinyarwanda. Et puis, je suis actrice, donc je suis comédienne, et je joue le personnage d'Hermès dans Planète B. Est-ce que tu veux que je parle un peu d'Hermès ? Ou bien on passe ?
On en parlera plus tard, on va déjà faire un petit tour de table.
Bonjour, moi je suis Ève Robin, je suis donc la productrice du film, dans la société de production Les Films du Bal.
Et donc moi c'est Aude Léa Rapin, et où ce qu'il en reste. Et donc je suis la scénariste du film et la réalisatrice du film.
Voilà, donc une super petite équipe de ce film Planète B. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous résumer un peu le film, de quoi il parle ?
C'est toi qui...
Alors ouais, j'ai pris ça en charge. Alors, il faut imaginer... Donc c'est un film c'est un thriller d'anticipation. Et donc il faut imaginer la France en 2039 dans une société qui a... Voilà, progressivement dérivé dans une société un peu plus sécuritaire, un peu plus autoritaire. Et notamment aussi avec une société qui a vraiment pas du tout pris en conscience, en acte, tout ce qu'il fallait faire au niveau écologie. Et face à cet état, en fait, il y a tout un groupe de jeunes qui commencent à se révolter au sein d'un mouvement qui s'appelle la R, qui réagit notamment au fait de l'échec des accords de Paris et qui commence à faire une série de sabotages et qui prend un peu grandement dans la France de 2039. Et face à ça, du coup, on suit notre personnage, un des personnages qui est interprété par Adèle Exarchopoulos, qui est donc notre personnage de Julia, qui va un jour, un soir, alors qu'il y a une nuit d'action, ils vont se faire tous arrêter de manière un peu violente. Julia se fait tirer une balle dans l'œil et gros noir. Et là, quand elle se réveille... Elle se réveille dans un endroit complètement paradisiaque, au bord de l'eau. Alors, il faut imaginer la mer Méditerranée, les roches rouges du massif de l'Estérel. Et elle se réveille là, dans un endroit complètement paumé. Et elle va essayer de trouver où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, elle va se rendre compte petit à petit en fait, qu'elle est enfermée dans la toute première prison virtuelle qui a été inventée par ce nouvel État. Donc elle va retrouver tous ses camarades au sein de cette prison et ils vont essayer de s'échapper. Et en parallèle de ça, on suit aussi un autre personnage qui est le personnage de Nour, qui est interprété par Souheila Yacoub, qui elle est une réfugiée irakienne qui a des problèmes de papier et qui travaille dans la base militaire dans le...
Stop, t'es en train de tout spoiler là en fait.
Voilà, et du coup... Mais quand même, si, parce que quand même, elle va trouver un moyen de rentrer dans cette prison et ça va être le lien quand même de comment elles vont réussir à mettre à mal ou pas cette prison. Voilà,
très dur de résumer sans tout dire. Mais voilà, donc une dystopie. Et donc toi, Aude, comment t'as eu l'idée de ce film ?
Oui, en fait, le film, il est né avant tout d'un désir de science-fiction. Qui n'est pas du tout un genre qu'on explore en France. on voit l'émergence de tout un tas de films de genre dans ces dernières années, notamment du fantastique avec des films comme Le règne animal, ou des body horror, il y a The Substance, Les femmes au balcon récemment, Animal. Mais c'est vrai que la science-fiction, c'est vraiment le parent pauvre du cinéma français ou européen, qui est, je pense, où on se sent très écrasé par les grosses bertas américaines et leur très très gros budget. Et je pense que ce pari-là, de se lancer dedans, toutes les deux, dans un cinéma indépendant, était le point de départ, on va dire, du désir de ce film. Et c'est agrégé à cette envie. Un démarrage d'écriture dans une période extrêmement intense, dense, où les gilets jaunes, et puis juste après la période du Covid. Et j'ai l'impression que tous ces ingrédients-là se sont amalgamés les uns aux autres au fur et à mesure de l'écriture pour en arriver à ce qu'est devenu le film.
Alors justement, t'en parles en fait, il y a quand même des réalisatrices et des réalisateurs qui ont un peu pavé aussi le chemin du cinéma de genre en France là. Je pense aussi à Grave par exemple, ou Titane, ou juste Philippot avec Acide, ou La Nuée. Et du coup, est-ce que ça a été compliqué pour toi d'aller chercher du financement justement sur un film comme celui-là, où tu sens que ça devient un peu plus facile d'aller sur ce type de proposition?
Ben là justement, je vais laisser Eve répondre.
Alors, du coup, on est obligé de faire tous en chuchotant.
Non, mais non, je ne vais pas continuer en chuchotant. Mais merci Rémi, le deuxième animateur de cette émission, donc, qui a continué sur le chuchotement.
Ouais, parce que moi, ça va être... alors, sur le financement, alors c'est sûr que... il y a une nouvelle, comme un peu une sorte de nouvelle vague qui accompagne une nouvelle vague comme ça de désir de cinéastes, de producteurs et aussi du coup de partenaires financiers qui ont envie aussi de casser avec une sorte d'histoire du cinéma français où on s'est assez peu emparé finalement de ce que disait Audelia tout à l'heure, du film de genre, et que là on a envie de créer ces propositions. Et du coup, il y a en effet une capacité des partenaires financiers à pouvoir comprendre, s'engager aussi sur ces projets. Après, c'est pas quand même non plus sans... je veux dire, c'est pas facile non plus, parce que ça comporte... pour eux, ça comporte quand même beaucoup de risques, parce que du coup, le film de genre français, pour certains partenaires, ils ont la sensation que ça ne peut pas aller chercher justement le public qui est visé, c'est-à-dire un public jeune, et dont on sait et que le public jeune, à un moment donné, un peu délaisser les salles de cinéma parce que des propositions plateformes, des Netflix, voilà. Et donc là, depuis le Covid, il y a un désir un peu collectif, que ce soit des créateurs, que ce soit tous les partenaires financiers, d'essayer justement de leur faire des films à leur adresse, à ces jeunes, pour qu'ils essayent de revenir en salle de cinéma sur des propositions françaises. Ce qui n'a pas été le cas pendant des décennies, en vérité, où en fait les films étaient plus adressés à une cible senior. Et donc il y a eu un décrochage du public. Voilà, nous, ce film s'inscrit exactement à cet endroit-là, c'est-à-dire ce désir, et c'est pour ça qu'on est hyper contente d'être à Radio Campus Grenoble, parce que c'est ce désir aussi de toucher des jeunes, de faire une proposition de film de genre, mais avec un fond très fort, avec aussi une vraie réflexion sur le contemporain. Voilà, pour ça, pour nous, cette adresse à la jeunesse, elle est claire, quoi, voilà.
Avec au début du film le petit N rouge de Netflix quand même, donc j'imagine coproduit le film.
Alors Netflix n'a pas vraiment coproduit en fait. Ce qui s'est passé il y a quelques, maintenant il y a deux ans et demi, en fait à l'époque Netflix agissait de manière très... ils venaient et ils n'avaient aucune obligation d'investissement dans le cinéma français ou dans l'audiovisuel. Donc ils agissaient un peu, ils avaient des enveloppes, ils produisaient leurs films, mais sans que ce soit encadré. Et du coup, tout le secteur du cinéma et de l'audiovisuel aussi se sont rassemblés. Ils ont proposé, créé un cadre pour que les investissements de Netflix puissent s'inscrire dans la chronologie des médias, dans le système français, qui est un système qui est quand même assez vertueux et assez, enfin, qui oblige en fait un certain nombre d'investissements dans un cadre avec des obligations d'investissement sur des types de cinéma dits de diversité. Enfin, qui est, voilà, c'est très encadré, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc nous, on s'inscrit, le partenariat avec Netflix s'inscrit totalement à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont investi au même titre que Canal+ ou que OCS, c'est-à-dire qu'ils ont acheté une fenêtre de diffusion. Mais on n'a pas eu... et on est assez contente de ça, parce que c'est aussi notre cible, Netflix. C'est aussi très bien que les jeunes qui regardent Netflix puissent voir ce film. Après, on n'a pas du tout... ça n'a pas été un travail comme d'autres séries Netflix où ils sont très interventionnistes et tout. Là, on avait une totale liberté dans la fabrication du film à partir du moment où ils se sont engagés sur un script, sur un casting, sur une proposition globale artistique.
Et donc, ouais. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Je viens rajouter quelque chose, toujours en mode confidentiel. Y a aussi le fait que je pense que quand on propose des films avec des imaginaires très forts, d'engagement... avec effectivement une adresse pour des jeunes qui vont grandir dans un monde super instable, avec des peurs de l'avenir, de se projeter dans l'avenir à très court terme, 10, 15 ans devant nous. Ces récits-là, et ces personnages tels qu'on les montre dans le film, des personnages en situation d'exil, ou des personnages qui vont prendre leur destin en main en prenant beaucoup de risques judiciaires, même de physique, dans une lutte pour essayer de préserver l'endroit où ils vivent. C'est des récits d'imaginaire qu'on a toujours plutôt tendance à laisser à la marge. Des choses qu'on voit dans des documentaires militants, sur des publics déjà conquis d'avance. Et c'était super important pour nous d'arriver à occuper le centre avec un film comme celui-ci. Et d'aller chez Netflix proposer un film très engagé. C'est une super chouette preuve que c'est possible quand on essaie de penser le fond et la forme. Et donc une forme plutôt sexy, divertissante de SF, avec ce que propose la science-fiction, c'est toujours une réflexivité sur aujourd'hui et maintenant, et de l'utiliser comme ça au service d'un projet qui met un pied dans le cinéma d'auteur, un pied dans un cinéma plus commercial.
Et donc, tu as parlé de cet engagement. Est-ce que c'est par ce biais, enfin, je pense que c'est par ce biais-là aussi, enfin, que tu as choisi ce thème, c'est pour attirer les jeunes, comme vous le disiez avant. Et comment vous avez fait pour laisser le narratif et pas donner un côté, je ne sais pas,
tracte politique.
Ouais, genre. C'est ça, au film. Pour, je ne sais pas si vous comprenez ma question.
Si, je comprends. Mais je me disais quand même une chose, c'est que le but, c'est pas juste d'attirer les jeunes, c'est aussi de proposer un endroit de discussion.
Ouais.
Et c'est ça, un film de cinéma, c'est peut-être la grande différence avec une consommation de plateforme, que je fais aussi, hein. Je regarde plein de séries, je fais plein, j'aimerais bien avoir plus de temps pour en regarder plein, mais en tout cas, c'est pas genre Netflix contre le cinéma ou la plateforme contre le cinéma, mais il y avait l'envie avec ce film qu'on discute, qu'on dialogue, de tendre des ponts avec les peurs qui nous animent et les questions qu'on se pose tous de... Je pense que la question la plus centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on sent que et la démocratie, et le climat, et l'environnement dans lequel on vit, toutes ces choses qu'on croyait solides et acquises, en tout cas ici en Europe de l'Ouest, sont en train de glisser. Et en ce sens, le film n'est pas tant dystopique que ça. Il propose juste une vision d'une jeunesse qui décide de sortir de la passivité et s'engage. Donc ça, c'est ce que pour répondre à la première partie de la question. Et la deuxième partie, sur le côté tract politique, oui, je m'en méfie toujours. Je pense qu'il ne faut jamais être animé qu'avec des envies politiques. Sinon, il ne faut pas faire du cinéma, il faut faire autre chose. Il faut militer pour de vrai. Par contre, au même titre qu'un cinéma qui propose aucune réflexion, me semble pas très utile non plus. Mais l'alliance des deux, c'est pour ça que je prenais ce point tout à l'heure de parler de fond et de forme. C'est comment on fait réagir les deux au service d'un récit. Et ça reste un récit de, effectivement, de femmes qui créent des liens. Il y en a trois dans ce film. On a le personnage joué par Adèle Exarchopoulos, le personnage joué par Sola Yacoub et le personnage joué par Eliane Muir. Et c'est un combat de résistance, voilà, de désobéissance civile, de résistance. Mais ça reste une trajectoire qui n'est pas une trajectoire politique. C'est une trajectoire humaine de gens qui essaient de sortir de leurs conditions extrêmement complexes. Chacune
Et on pourra en parler avec Eliane sur son personnage un peu plus tard, mais c'est un film de prison, c'est un film de combat pour la liberté, c'est un film de lien qui se crée entre des gens qui luttent ensemble, avec des destins complexes. Et c'est enfin, pour répondre très cash, c'est peut-être en mettant de la fiction là-dedans, en créant un récit, qu'on sort du côté pamphlet politique.
Et juste pour compléter un tout petit peu ça par rapport à mon point de vue aussi de production, ce qui est très important, parce que quand vous disiez tout à l'heure d'aller chercher les jeunes ou d'aller les attraper, c'est pas vraiment ça, hein, c'est au contraire, c'est créer une adresse, c'est aussi, en fait, en cinéma, on crée des imaginaires, en fait, ou pas qu'on les crée, c'est qu'on défend des imaginaires, en fait. Et notamment, il y a certaines pensées... humanistes qui sont actuellement extrêmement attaqués. Enfin, voilà, en tout cas, c'est notre point de vue. Après, on peut en débattre, mais en tout cas, nous, on le pense. Et c'est vrai que c'est très important qu'à travers la culture, en tout cas, si on peut faire une action, c'est ça, c'est quand même défendre à tout prix et sacraliser à tout prix un certain nombre, un imaginaire qui, nous paraît plus cohérent. Et en effet, parler de ces liens d'entraide et de porter... des représentations en fait qui nous paraissent importantes à l'heure actuelle, ça c'est un combat en fait, c'est un combat et qui est un combat pas facile parce que il y a beaucoup d'obstacles en fait, pour construire ces films, comme disait Aude, engagés. Et c'est vrai que c'est à travers la SF et cette forme en fait de films plus divertissants en fait, qu'on a réussi à tenir notre pari de pouvoir parler de la criminalisation des activistes écologistes actuels, de pouvoir parler des politiques de durcissement des politiques migratoires, enfin de parler d'énormément de choses, mais avec quand même une patine qui nous permet de rassembler, voilà. Et c'est plus un côté rassemblement et réflexion qui nous intéresse dans cette défense d'imaginaire.
Ouais, donc c'est la science-fiction qui vous a vraiment aidé à pouvoir extérioriser tout ça.
Exactement.
Ok, et donc tu voulais rajouter quelque chose?
Je voulais juste te dire que c'est rare d'avoir la possibilité de faire un film où les personnages principaux sont des gens en situation d'exil, plus ou moins légal, et de l'autre côté, des gens qualifiés d'éco-terroristes. Et c'est le gros truc qu'on a réussi à faire, effectivement, avec des partenaires peut-être un peu étonnants de ce point de vue-là. Netflix, Studio Canal, France Télévisions, on a réussi à imposer quelque part ce récit avec la force de la fiction. Et justement, là où on aurait sans doute pas réussi à le faire si ça avait été juste un pamphlet politique.
Mais après, il faut que les gens et le public s'en emparent. Et ça, c'est important. Parce que sinon, tout ça aurait servi à rien. Et du coup, il faut que les jeunes, en l'occurrence, puissent y aller, débattre, continuer à agir et réfléchir par rapport à tous ces sujets. Parce que maintenant, c'est au public de s'en emparer, en fait.
Eh ben, merci Eve, on profite de ton invitation pour faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Campus 90.8.
Changer les ombres, on peut juste les éclairer jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si l'époque a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, a lumière, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où est-elle la stéo caché dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où est-elle la stéo caché dans son dos, attendant.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, c'était La Fièvre de Julien Doré qui parle justement de surconsommation et d'augmentation des températures comme dans le film Planète B. Et pour en revenir au personnage de ce film, Eliane, je vais te laisser un peu présenter ton personnage de Hermès, hein, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce rôle et comment est-ce que tu le décrirais?
Je suis tentée de répondre comme ça, c'est tellement confortable. Franchement, c'est... tout à l'heure, Audley a parlé de ces trajectoires humaines qui tapissent ce film. Et mon personnage fait partie de ces trajectoires-là, qui est Hermès. Hermès qui est en situation d'exil. Parce que quand on parle aujourd'hui de réchauffement climatique, de changement de notre monde, comme on le connaît aujourd'hui. On parle aussi des crises que cela va provoquer, des crises migratoires. Donc des gens qui vont devoir quitter leur territoire. Par exemple, des gens comme... Il y a des lieux comme le Bangladesh, on sait, qui vont presque être rasés de notre planète à cause de la remontée des eaux. Et du coup, qu'est-ce que ces gens-là deviennent? Et Hermès fait partie de ces gens-là. Qui sont du coup obligés de quitter leur territoire et d'arriver dans un système où l'intégration se fait autrement. Parce que quand on exile, quand on quitte son endroit d'existence et qu'on arrive dans un nouveau lieu, on est poussé à s'intégrer. Et en face, on attend ce qu'on soit accueilli. Et du coup, ça, cela facilite l'intégration. Et cela permet aussi d'amener, d'apporter sa perspective à cette nouvelle société dans laquelle on arrive. Mais si cela est contraint, comment est-ce qu'on y arrive du coup? On est presque déshumanisé. Il y a des gens qui sont complètement déshumanisés et qui sont perdus dans toute la paperasse et toute la bureaucratie. Et ce qui me touche énormément chez Hermès, c'est qu'il n'accepte pas d'être rayé. Du système, mais elle résiste à sa façon. Et sa résistance vient dans une forme d'aide à d'autres gens qui sont dans son cas. Et du coup, elle ouvre, j'espère que je ne spoil pas trop, mais elle ouvre un magasin de contrefaçon où elle fait des contrefaçons de QR code. Parce qu'aujourd'hui, là, en 2024, pour pouvoir rester sur le territoire français, mais aussi, j'imagine, dans d'autres territoires aussi, c'est qu'on a une carte de séjour qui a une durée valide. Donc, soit 2 ans, 5 ans, ou 10 ans, ou des fois 1 an. Ça dépend aussi de ce qu'on fait. Il faut prouver qu'on contribue sur le territoire dans lequel on vit et tout. Et dans cette France 2039 de Planète B, cette fois-ci, les cartes de séjour sont... c'est un QR code qu'on a dans l'œil. Et donc, ce QR code-là, qu'on scanne pour voir si on est encore valide pour rester sur ce territoire-là. Et du coup, Hermès fait des contrefaçons de ces QR codes-là pour permettre à d'autres personnes comme elle, qui sont dans cette situation d'exil, de pouvoir rester un peu plus sur ce territoire qui est ultra contrôlé. Donc, c'est une sorte de fausse liberté qu'elle leur donne. Et ce qui me touche aussi, chez Hermès, bien sûr, il y a ce côté de survivance qui est chez elle, cette résilience folle et cette force de vie qui est chez elle, et mais aussi un côté un peu énigmatique de quelqu'un qui a appris à vivre sous les radars. Et on ne sait pas où est-ce qu'elle va quand on la voit la première fois se retourner. On ne sait pas si, elle est, si c'est une bonne personne ou si c'est quelqu'un qui a été durci par le système jusqu'à ne plus avoir de sentiments. Mais on voit plus tard que c'est quelqu'un qui a encore du sang dans son cœur continue de battre parce qu'elle accepte d'évoluer. Et à un moment, elle ravale sa fierté et vient en aide à Nour. Bref, on verra plus tard. Mais il y a un moment qui me pousse, peut-être que j'anticipe trop sur tes questions. Mais voilà, Hermès, c'est ça. Et puis, autre chose qui m'a intéressée quand je lisais le scénario, j'étais partie pour être castée sur un autre personnage qui n'a rien à voir avec Hermès. Mais quand j'avais lu le scénario, je me disais, mais tiens, elle est trop intéressante. Et on me faisait penser à Morpheus dans Matrix, avec sa force et tout. Et j'étais très contente de retourner au casting.
Donc, tu t'es vraiment sentie attirée par elle. Et c'est de la science-fiction. Donc, je suppose pour le jeu d'acteur, ça ne devait pas toujours être évident, enfin aussi évident que dans des films plus classiques. Comment toi t'as réussi, parce qu'il y a beaucoup d'ajouts, d'effets spéciaux au montage, comment toi tu l'as ressenti pour jouer le personnage dans un environnement qui n'est pas forcément similaire au rendu final que tu vois une fois que le film est produit?
Étonnamment, mon underground, je dirais, l'underground, en tout cas le territoire d'Hermès était très réaliste. Je veux dire, vraiment la façon dont le lieu était construit, le décor était construit. Et d'ailleurs, ça me met vraiment en admiration et en respect profond de l'équipe de scénographie, comment ils avaient construit. Je me rappelle le premier jour quand je suis arrivée dans le Hermès Stowe, et où même, d'abord la première photo que Audeléa m'a envoyée avant que j'aille sur le tournage de l'Hermès Stowe, ce qu'ils avaient construit et tout, je me disais, mais purée, c'est tellement... bien sûr, c'est tellement futuristique et en même temps tellement réel. Et donc, quand je suis arrivée sur le décor, c'est... J'ai l'impression que le micro est on and off. Bref. Donc, quand je suis arrivée sur le décor, c'était assez réaliste et ça m'a permis d'être vraiment dedans sans que j'aille chercher loin. Mais en même temps, le fait de savoir qu'il y a cet autre univers dans lequel on est en train de jouer, vraiment comme si on était dans deux mondes parallèles, il y a un endroit de joie profonde, de presque une joie d'enfant, de créativité. Cette créativité, quand on est petit, qu'on joue avec tout ce qui vient et que... Donc, il y a juste ce territoire immense qui est là à l'intérieur et cette joie de se dire, yes, on peut jouer à tout. On est vraiment il n'y a pas de... bien sûr, il y a un cadre qui est fixé, mais en même temps, dans ce cadre-là, il y a tellement de possibilités. Donc, c'est cette joie-là profonde et je trouve que c'est un de belles récompenses qu'on peut avoir en tant qu'acteur et actrice.
Oui, et donc ce film, on voit bien qu'il mêle la science-fiction, mais au final, qu'il traite de sujets actuels. Et donc, je voulais vous demander quel rôle joue cette fiction dans le réel, parce qu'au final, maintenant que vous en parlez, on voit que ça peut être totalement rattaché à des situations de la société actuelle.
Ben, c'est sans doute ce qu'il y a de plus passionnant avec l'idée d'écrire de la science-fiction à très court terme, on va dire. Enfin, il y a eu toute une phase du cinéma où on écrivait des trucs apocalyptiques à 200, 300 ans d'horizon. Même Besson dans son Cinquième élément avec des voitures qui volent dans le ciel. Enfin, des choses totalement déconnectées des réelles ressources de la planète ou des réelles technologies existantes. Et ici, on a plutôt fait le pari d'une... C'est de la SF très réaliste. Dans le sens où il n'y a aucun motif dans Planète B qui n'est pas déjà à l'œuvre aujourd'hui. Soit à l'œuvre embryonnaire, soit déjà suffisamment avancé pour que ça soit suffisamment inquiétant et d'être à la limite du point de non-retour. Eliane parlait là tout de suite de la déshumanisation des personnes en situation d'exil. On est déjà en train de rogner sur les conditions de vie et les conditions d'accueil de ces gens, sur le droit d'asile, dans le pays qui les a créés, par exemple. Et c'était très simple d'essayer de tirer cette ficelle qu'on voit déjà à l'œuvre aujourd'hui, la façon dont on détricote cet état de droit, et ce que ça allait produire sur la façon de vivre et les conditions de vie de ces gens-là dans un horizon de 10 ou 15 ans. Idem pour la surveillance. On a cette espèce de société qui s'affronte aujourd'hui entre les notions de liberté et les notions de sécurité, comme si l'une était contre l'autre. Il y avait une France woke, libre, qui fait n'importe quoi, et une France sécuritaire, cadrée, qui a envie de prendre le dessus sur l'autre. Et comme si ces deux choses-là ne pouvaient pas aller ensemble. Du coup, j'ai fait un choix pour Planète B, ça a été de me dire, si on va vers de tout sécuritaire, ça donne quoi? Et juste tirer cette ficelle-là, en termes de scénario. Et ensuite, on voit... On a pris soin dans tous les extérieurs qu'on a tourné donc ici à Grenoble de toujours mettre un fond de patine de fumée qui symbolise cette espèce de pollution qui est plus qui est juste visible en fait, visible comme elle l'est déjà en Inde, dans les villes indiennes récemment qui ont dû carrément arrêter de vivre pendant 15 jours. Plus personne ne pouvait sortir de chez lui, c'est déjà à l'œuvre sur la planète. Ça l'est pas encore en France. On n'a pas encore arrêté des villes entières à cause de la pollution. Mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas ici, puisque c'est déjà à l'œuvre ailleurs, en fait. Je pourrais donner plein d'exemples comme ça, mais en tout cas, le film s'est construit par ce dialogue avec le futur proche. Et qu'est-ce que nous raconte le présent dans ce dialogue avec le futur proche, sans essayer de faire d'être un prophète ou un espèce de gourou de l'avenir, j'en sais rien, juste en prenant...
Oui, donc c'est cette volonté aussi de traiter le futur proche, et c'est ça, enfin, c'est ça que ça apporte d'être dans ce futur proche. T'as parlé avant de scènes qui ont été tournées à Grenoble, et les activistes dans ce film, justement, ils viennent de Grenoble, donc pourquoi Grenoble en tant que radio grenobloise, on se demandait.
Il y a plusieurs raisons pour Grenoble. Je vais donner la première, qui est sans doute la moins intéressante, mais qui est réelle. C'est qu'il fallait... En fait, on tourne les films en un bloc, on tourne pas les films en mettant 6 mois d'espace entre deux moments de tournage. Et il fallait que la moitié du film ait l'air d'avoir été tournée en plein été, sur la Côte d'Azur, et l'autre moitié du film soit tournée en plein hiver. Et pour obtenir ce sentiment-là, dans la même période de l'année, il fallait choisir une ville qui soit proche des montagnes, où on voit de la neige au loin, où on ait ce sentiment de froid d'hiver, et qu'en même temps, si on tournait dans cette même phase, on ait un sentiment d'été dans le sud de la France. Donc ça, c'est la première chose, et Grenoble est la seule ville en France vraiment comme ça, avec de grandes villes enclavées dans les montagnes. Donc ça, c'est la raison, on va dire, technique.
Après, juste, pardon, j'interromps, c'est juste quand même Grenoble, quand tu m'as parlé de Grenoble, c'était...
J'allais venir.
Ah oui, voilà. Ouais. C'était vraiment une évidence. On n'aurait pas pu tourner ailleurs pour au-delà. Non, mais c'est important. Parce que,
non, mais complètement, ouais. Complètement. Non, et c'est vrai que... Ah, je récupère un peu ma voix. C'est vrai que c'est une ville que je trouve ultra cinégénique à plein d'égards, de par sa géographie, mais je crois qu'il y a aussi le... Parce que finalement, on ne la fait pas tant vivre que ça, la géographie de Grenoble, dans le film. Mais c'est une ville où j'ai l'impression, je ne sais pas, que c'est une ville qui nous est familière. Enfin, je pourrais imaginer Jane Campion tourner Top of the Lake ici. Je pourrais imaginer Enki Bilal faire sa prochaine BD ici. J'ai l'impression que c'est une ville qui est au croisement de plein d'influences du genre. Étonnamment, je l'ai reperdu. Et du coup, c'était plus on avançait dans les repérages, plus on découvrait des choses incroyables et plus limite on aurait eu envie de réécrire tout le film pour donner encore plus de place. Cette place Saint-Bruno dans laquelle on a tourné beaucoup du film, qui est ultra, ultra. On a l'impression qu'elle est sortie de Blade Runner, cette place. Et on a même du mal à y croire quand on l'a découverte la première fois avec Eve, comme si on avait découvert un truc que vous voyez tous les jours. Mais nous, on a eu vraiment l'impression de découvrir un truc et de se dire, mais c'est quoi cet endroit, ce bâtiment, ce lieu. Et ensuite, quand on est monté à la Bastide, d'ailleurs, c'est trop marrant parce qu'on fait péter l'antenne relais de la Bastide dans le film, et en fait, en vrai, elle est toujours là. et ce lieu est fou, c'est pareil. Il y a une imbrication des choses qui est très étonnante dans cette ville, entre de l'ultra technologique dans des nouveaux quartiers avec des bâtiments architecture nouvelle mélangé à de l'ultra vieux dans son jus, entre l'esprit savoyard et l'esprit haussmannien. Enfin, il y a quelque chose de très cinégénique dans cette ville, et par ailleurs du coup, ça nous a permis aussi de travailler avec des gens ici, un accueil tellement formidable.
J'ai l'impression que Grenoble, c'est une ville qui attire beaucoup de fantasmes, de part et d'autre, quoi, des fantasmes de... soit des gens vont vous dire, oui, c'est hyper violent, Grenoble, surtout tournez pas la nuit, nous on tournait que la nuit à Saint-Bruno. Et on a été ultra bien accueillis, on se sent hyper bien, quoi, enfin... Et on a plutôt même été dans un quartier extrêmement curieux et bienveillant de ce qu'on était en train de faire chez eux, en fait. Et des fantasmes, plein de choses. J'ai l'impression que ouais, Grenoble, c'est une ville, soit on dit qu'elle est très polluée, soit c'est qu'elle est trop écolo. Enfin, il y a quelque chose d'hyper intense, quoi, pour tous les gens qui parlent de Grenoble. Et ça, j'aime bien cette idée.
Donc, véritable coup de cœur pour cette ville, qui à la base, c'était juste pour allier les mêmes saisons dans une même période, mais finalement...
Oui, d'ailleurs, Eliane vit à Grenoble. Enfin, elle vient pas du tout de Grenoble, tu viens du bout du monde, mais c'est ici que t'as trouvé ton point de chute.
Intéressant de t'entendre parler de Grenoble comme ça et de Saint-Bruno, parce que nous, pour Saint-Bruno, on a une autre connotation. Justement, quand on parle de la violence à Grenoble et tout ça, c'est directement ce qui vient à l'esprit. Et pourtant, c'est un quartier qui est très vivant. Et je me rappelle le premier jour, quand je suis venue vous voir sur le plateau, il y avait le marché. Et donc, c'était intéressant de voir le marché d'un côté et le décor de tournage de l'autre côté. Et puis, il y a des scènes qui devaient se tourner juste après le marché. Et donc, de voir comment les vendeurs étaient bienveillants envers... envers le tournage du film, et puis comment ça fait aussi écho à toutes les problématiques qui sont adressées dans la ville, le fait que ce soit une ville écolo, aujourd'hui on parle, je viens juste de France 3, et dans le journal on parlait de Grèce en Vercors, la station qui a fermé, et toute l'équipe municipale qui a démissionné, parce que nos stations de ski sont en train de fermer. Pourquoi ? Parce que les montagnes se réchauffent deux fois plus vite que les plaines, et que du coup il y a toute cette conscience de comment est-ce qu'on va vivre les montagnes autrement, comment est-ce qu'on va vivre nos villes autrement, et ça rejoint un peu le propos du film.
Oui, c'est
oui,
ça.
Avec toute une jeunesse ici assez avant-gardiste, à l'image de Camille Etienne et toute son équipe, j'ai l'impression qu'il y a aussi il se passe des choses en termes de prise de conscience écologique de par la situation sans doute géographique de Grenoble, qui vit la pollution et le réchauffement climatique puissance x2, x3 par rapport au reste de la France qui a du mal à bouger aussi vite que ça se passe ici.
Oui, donc là, on a fait une grosse plongée dans l'ambiance grenobloise, mais qui est évidemment en lien avec les propos du film.
Les personnages du film sont de Grenoble.
Oui.
Dans le film, Adèle Exarchopoulos est grenobloise.
Ah, je ne savais pas.
Je savais pas qu'elle était voisine.
c'est ce qu'on raconte, c'est une jeunesse qui lutte à Grenoble, le début du film.
Oui, c'est ça. Et bah, justement, pour se plonger un peu dans l'ambiance de ce film, on va écouter le générique.
Je me rappelle de rien. Il y avait des drones. Il y a des Cérès qui sont arrivés.
Bienvenue à Planète B, la première prison virtuelle. Vous allez nous aider à démanteler la cellule terroriste.
Personne ne va dénoncer personne.
C'est dans cette chambre noire que vous pourrez communiquer avec nous.
Were you a journalist in Baghdad?
They're not giving anyone papers anymore.
You are in the shit, young lady.
Attention! Attention!
I stole a VR headset from the military base.
5,000.
Take this and get out of here. This is not a headset, it's a bomb. This thing has the army logo.
Vicky? Tu viens d'arriver?
Are we in a game? Everyone outside believes you disappeared. They're looking for you. I'll get you out of here.
Ici, vous ne pouvez pas fuir.
Ouais. Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et on est toujours avec Aude Léa Rapin, la réalisatrice du film Planète B, Eliane qui est comédienne dans ce film, dans le rôle d'Hermès, et Ève Robin, la productrice. Vous venez d'écouter le générique. Dans ce générique... Qu'est-ce qu'il y a ?
La bande-annonce.
La bande-annonce, pardon. on voit dans cette bande-annonce tout un mélange de langues avec le français, l'anglais notamment, majoritairement. Mais il y a aussi de l'irakien. Enfin, je vais te laisser développer, Audeléa, sur toutes les langues qu'il y a. Mais alors, pourquoi avoir donné à ce film une dimension internationale comme ça ?
Avant même de lui donner une dimension internationale, il y avait surtout l'envie de lui donner une dimension féminine. On parlait de la rareté de la science-fiction, mais on pourrait dire encore plus rarement de la science-fiction au féminin. C'est très précieux. C'était très précieux pour moi que ça soit incarné par des héroïnes. Et par ailleurs, que ces femmes-là se fassent l'écho du monde tel qu'on, dans lequel on vit, en fait. Et le monde des personnes en situation d'exil, c'est pas un monde où tout le monde parle français ou communique... surtout dans cette France qu'on met en place, qui n'est pas une France accueillante du tout, comme l'a expliqué tout à l'heure Eliane. Où l'exil devient un lieu de passage géographique. Nour, le personnage joué par Soula Yacoub, on comprend assez bien qu'elle est là depuis très peu de temps. Là où Hermès, le personnage d'Eliane, est là depuis beaucoup plus longtemps. Et Nour parle pas du tout français dans le film. Elle n'a pas eu le temps d'apprendre le français. Et du coup, elle communique en anglais avec... avec Eliane, mais aussi ensuite avec le personnage joué par Adèle Exarchopoulos. Et Nour étant irakienne et garde un contact permanent avec, avec son cousin qu'elle a souvent au téléphone. On entend parler de l'arabe irakien, qui est une langue super rare à entendre au cinéma, tellement l'Irak a été rayé de la carte des imaginaires. Même dans des pays très durs comme l'Iran, on a une cinématographie iranienne, ce qui n'est pas le cas du tout de l'Irak. Et du coup, c'était important pour moi de faire... résonner cette langue irakienne et ensuite d'avoir des gens de tous les horizons, d'avoir des couleurs de peau différentes, c'était très important, mais à l'image du monde en fait, ni plus ni moins.
Donc tu avais vraiment la volonté de montrer cette multiculturalité, je vais y arriver.
Mais c'est important de l'utiliser ce terme de multiculturel parce que c'est le terme qui est le plus qui sédimente les identitaires en France. Tous les groupuscules identitaires de toutes les villes de France luttent sur l'idée du vivre ensemble, l'impossibilité du vivre ensemble. Si on vient pas de la même culture, on peut pas vivre ensemble. Ça, c'est leur grande théorie. Moi, je crois tout l'inverse. Je pense qu'on peut pas vivre dans l'entre-soi.
Oui, et donc on voit qu'il y a ce côté multiculturel au film, mais il y a aussi, donc, comme on le voit, le côté plus qui parle d'écologie et d'environnement. Et ça fait notamment penser beaucoup au phénomène d'éco-anxiété qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc est-ce que vous vouliez... est-ce que ce film il peut un peu être perçu comme une catharsis pour les spectateurs qui sont confrontés à de l'éco-anxiété ?
Oui, tout à fait. Anxiété, elle a même été, elle porte un nom, s'appelle la solastalgie, qui est devenu un nouveau trouble psychique dont les psys ont été obligés de le théoriser à un moment donné tellement ils y étaient confrontés dans les cabinets de gens qui ont peur de l'avenir, peur de l'état du monde. Après, l'avenir nous le dira. Est-ce que c'est que j'ai un esprit catastrophiste et on est plusieurs à le partager, cet esprit catastrophiste, ou est-ce que c'est d'être lucide? Être éco-anxieux, c'est d'être lucide sur le fait que la façon dont on vit sur cette planète est en train de la bousiller, et donc à terme de bousiller les êtres humains. Et c'est vrai que ce qu'on a en face, toute personne qui tient ce discours avec une certaine forme de lucidité scientifique ou d'expérience, ce qui n'est pas mon cas, d'expérience oui, scientifique non, et soit moquée à l'image de la façon dont on a reçu Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, ou à lire le livre de Camille Etienne quand elle explique la façon dont elle a fallu qu'elle survive à l'humiliation et la moquerie pour pouvoir sédimenter son combat et le tenir, faire en sorte qu'il existe, de s'engager et de ne pas avoir honte de s'engager. Donc il faut survivre à ça d'un côté et de l'autre à la judiciarisation de quasi toutes les luttes écologiques finissent en garde à vue, en prison. son casier judiciaire en surveillance. Et c'est d'autant plus le cas ces quelques dernières années, autour de combats hyper symboliques comme Notre-Dame-des-Landes, Sivens,
les méga-bassines.
La dissolution des soulèvements de la Terre, qui n'a aucun sens juridiquement, le terme d'éco-terrorisme qui est né comme ça, out of the blue, où on arrive aujourd'hui à faire croire qu'un paysan, ou quelqu'un qui va essayer de lutter contre une méga-bassine, d'empêcher cette méga-bassine d'exister en Charente-Maritime, on va lui associer un terme qui renvoie aux gens qui ont assassiné tout le monde au Bataclan. C'est super grave en réalité de faire ça. C'est grave et c'est dangereux. Et je pense que ça, qu'on soit inquiet ou pas pour l'avenir, c'est une matière à nous inquiéter. Nous, cette jeunesse qui va grandir encore un certain nombre d'années dans ce pays, je pense qu'on est concernés très directement.
Aude, on en a un peu parlé, mais pas tant que ça là, autour du film. C'est quand même un film qui parle quand même de la surveillance et puis de l'enfermement quand même. Il y a une grosse partie du film qui parle de ça. C'était quoi ton propos ? T'avais envie de dire quoi justement là-dessus aussi sur, si on se décale un peu de l'écologie, sur cette question de la prison, de la surveillance qui effectivement se développe quand même aussi de plus en plus à travers tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui ?
Ouais, c'est ça, mais c'est la façon dont ces outils, qui sont les outils technologiques, la façon dont on les utilise et qui renvoie à d'autres peurs qui ne sont pas celles de l'éco-anxiété, mais je pense que qu'on soit dans le déni ou pas, on a cette arrivée massive dans nos vies de l'intelligence artificielle, qui est en vrai un très gros changement de paradigme, aussi gros que l'arrivée d'Internet l'a été dans nos vies. Et je pense que ce film qui a commencé à se penser vraiment en période de confinement, où c'était la première fois que je réalisais à quel point cette espèce de planète B, qu'on avait cherchée partout dans l'univers, à coups de milliards, en fait, elle était là, on l'avait créée devant nous, en fait. On vivait la moitié de nos vies, on la passe dans ce monde virtuel. On a des liens, il y a des gens avec qui je n'ai plus que des liens virtuels. Là, j'ai découvert Instagram il n'y a pas longtemps, mais c'est une planète B. Enfin, c'est une énorme planète B. On en rigole et tout, mais c'est un truc de fou. Et en plus, qui remplace tout le reste. Depuis que j'ai Instagram, j'ai plus personne qui m'écrit sur WhatsApp, par exemple. C'est comme si ça chassait un monde, en chasse un autre. Et les gens en parlent. Quand je suis arrivée sur Instagram, les gens m'ont accueilli comme si j'entrais en prison. Et comme si j'allais aliéner toute ma pensée. Et que ça allait être très dur pour moi à partir du jour où j'avais mis les pieds dedans d'en sortir un jour. Même du mode de pensée qui va avec les réseaux sociaux. Mais oui, c'est un film de prison, Planète B. C'est un film de prison et c'est chouette de poser la question en ce sens. Et cette prison, on peut la voir comme deux choses. Soit effectivement une sorte de métaphore de ce que c'est que de lutter aujourd'hui. C'est-à-dire... C'est une phrase d'Alexei Navalny qui s'est avérée très juste dans son cas où il disait « Pour les gens qui s'engagent en Russie, pour les gens, pour l'opposition politique, il n'y a que l'exil, la prison ou la mort. » Et je pense que j'ai pris cette phrase au pied de la lettre par des figures comme la sienne qui sont extrêmement inspirantes pour moi dans la vie. Mais pour chacun d'entre nous en réalité. Je pense qu'en France, on a été très choqués parce que s'engager, ça voulait dire possiblement perdre un œil ou une main. Dans une manifestation. Et il y a des pays qui sont passés à la vitesse supérieure, où c'est perdre sa liberté. Et en même temps que les gilets jaunes, il y avait Hong Kong. Et la jeunesse hongkongaise, elle est massivement en prison ou en exil. Et c'est des choses qui sont réelles, qui sont là à l'œuvre. Et pour parler de la lutte aujourd'hui ou de l'engagement, je crois qu'on ne peut pas se passer de parler de la prison et de l'emprisonnement et de la façon dont les lois et l'état de droit est utilisé contre ses citoyens et les citoyens, l'opposition politique en tout cas.
Surtout vu l'état des prisons en France actuellement, qui sont surpeuplées et puis les prisonniers sont dans des conditions quand même assez désastreuses en France.
Mais c'est pour ça que ça serait très malin de pouvoir utiliser le métaverse comme solution justement à la prison. Et puis ça renvoie à la prison mentale, Orange Mécanique, qui sont des films, un film qui m'a beaucoup marqué.
Et c'est sûr que quand aujourd'hui si on parle des algorithmes, c'est déjà comme si on était... Ça rejoint ce que tu disais par rapport à Instagram, cette prison qu'on a acceptée, dont on connaît tous les codes, qu'on accepte qu'elle existe. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des conversations sur des sujets parce que nos manières de penser sont, pour certains, dictées par les algorithmes. Et du coup, chacun, et ça questionne aussi, ça amène la question de la vérité aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la vérité et, sur quoi est-ce qu'on se met d'accord, puisque chacun aujourd'hui a sa propre vérité et semble assez documentée grâce aux algorithmes. Donc c'est.
Ouais, bien une sorte de carcéralité des mondes virtuels. Parce qu'effectivement, on est dans un entre-soi qui donne le sentiment d'être le monde entier. Mais en fait, c'est un entre-soi.
Et puis, on est avec des algorithmes qui recréent aussi un peu les mêmes travers de, entre guillemets, la vie réelle, c'est-à-dire du sexisme, des travers de genre, etc., qui recréent tout ça.
Enfin, ça nous enferme aussi dans les idées. Je veux dire, un algorithme, c'est fait pour te montrer des choses qui font que te plaire et... Donc oui, forcément. Enfin bon, pardon.
Non, pas tout. Continue. Non, moi je voulais juste rebondir sur revenir sur un peu le background du film, le making of du film et la question des femmes, pas à l'écran. On en a déjà pas mal parlé, mais dans l'équipe technique, en regardant la fiche technique, il y a quand même pas mal. Enfin, dans les techniciens, il y a quand même pas mal. Il y a pas mal de femmes. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait sciemment? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui il y a effectivement beaucoup plus de femmes sur ces métiers-là?
Tu veux parler avant? J'ai l'impression que c'est très chiant de m'écouter avec mon chuchotement. En fait, je pense que je peux le dire vraiment sincèrement comme ça, je pense qu'on fait aussi les choses avec qui on est, et des choses qui nous ressemblent. Et dans un duo productrice-réalisatrice, il y avait de grandes chances qu'il y ait une attention particulière donnée à la place des femmes aussi dans les autres postes de l'équipe technique. Après, il s'est avéré que ça soit, par exemple, on a une équipe de son entièrement composée de femmes. Sincèrement, c'est des choses qu'on n'avait pas, c'était pas une volonté de notre part. Il s'est avéré que c'était des gens hyper doués qu'on a rencontrés, dont on a aimé le travail. Et ça s'est fédéré comme ça. Par contre, le vrai choix, c'était une chef opératrice. J'avais envie de travailler avec une femme. J'avais très envie de travailler avec une femme pour ce film. Je trouvais que c'était un film, l'image allait être de filmer des femmes dans des situations d'intimité, sans être des situations d'intimité. De nudité par exemple, mais je cherchais cette espèce d'endroit de savoir capter l'intime dans des petites choses, et j'avais l'impression, l'intuition, que c'était bien de travailler avec une femme. Une équipe décor, le son, c'est rare d'avoir des femmes, je viens d'en parler, la déco c'est pareil, et là, c'est 100% une équipe féminine, la déco, et on a travaillé avec, le film s'est fait dans le cadre d'une copro avec la Belgique, qui est devenue une très grosse copro belge. Et la Belgique a un temps d'avance en matière de déconstruction à tout point de vue. Ils sont vraiment beaucoup plus en avance que nous. Et c'est fou à quel point tous ces rôles qu'on voit jamais en France, tenus par des femmes, là-bas l'étaient. Les constructrices, on avait toute une équipe de filles qui construisent des corps, qui pensent les objets, tous les objets du film, étaient designés par elles aussi. C'était une dizaine de filles à la déco. Qui en a d'autres comme femmes dans ce film? C'est presque tout générique. Presque tous les chefs de poste sont des femmes, même dans les postes.
Sauf chef costumier.
C'est un chef costumier qui est d'habitude plutôt en rôle de femme, mais là c'est tenu par un homme. On a un coiffeur, d'habitude c'est plutôt une coiffeuse, mais c'est vrai que c'est un homme.
On a tout inversé dans ce film, et par le hasard. Ouais, je retrouve parfois des. Oui, je pense que ce film-là respecte pas du tout la parité. On est sur un 200 ou 300% femmes.
Et ça, c'est scandaleux. Il faut le dire, c'est scandaleux. Vous n'avez pas respecté la parité.
On rigole et tout, mais il y a quand même un truc qui ressemble. Enfin, c'est très bien de faire ça et tout, mais c'est vrai que j'ai Enfin, je suis obligée de dire ça, et parce que c'est la vérité, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à avoir de la diversité dans les équipes techniques. On est très, très blanc dans les équipes de cinéma en général. Et c'est quand même... Enfin, on sent qu'il y a des combats qui paient, celui des femmes, la représentation des femmes devant et derrière la caméra, et c'est super. Mais c'est pas la fin du chemin, quoi. Si on veut que le cinéma ressemble vraiment à la société dans laquelle on vit.
Oui, donc, bah oui, j'ai rien à rajouter.
Je retrouve ma voix pour les choses importantes à dire.
C'est ça. Et donc on a bien vu ce rôle inversé dans le film, mais aussi pendant le tournage. Et en parlant de ce tournage, je voulais un peu vous demander des petites anecdotes. Enfin, quel est le moment qui vous a le plus marqué pour chacune, ou bien si c'est le même?
Moi, j'ai un truc qui me vient de Grenoble, mais qui est une anecdote pas hyper écolo, mais je crois qu'en vrai, c'est pas très polluant, donc je peux en parler. Mais on a tourné le début du film. Se passe dans l'université désaffectée qui est, je crois, entre la Bastide et la Tronche, c'est ça le lieu. Et on a eu 2 jours de tournage dans cet endroit, et on devait recréer une descente de CRS à coups de gros gaz lacrymogènes. Et du coup, on utilisait des machines à fumer de cinéma, qui sont les mêmes qu'on utilise au théâtre. Et pour mimer la façon dont des activistes se retrouvent comme ça, piégés par les CRS. Et cette fumée s'échappait par les fenêtres de l'université. Et en fait, au bout de 2 heures de tournage, on a eu les pompiers qui sont montés là-haut pour dire « En fait, on a compris, nous, que vous ne mettiez pas le feu, c'est juste que vous bloquez toutes nos lignes téléphoniques. Il y a tout Grenoble qui appelle, persuadé qu'il y a l'université qui est en feu. » est-ce que ça serait pas mal que vous appeliez la presse hein, pour qu'on mette un démenti, parce que là on est, enfin ça nous bloque le travail. Et du coup je pense que j'avais pas les réseaux sociaux à l'époque, mais du coup il y a eu un article le lendemain dans la presse pour dire attention, Grenoble est encore un jour avec Planète B. et voilà, ça m'a plutôt marqué parce que c'était fou comme des interactions comme ça entre la réalité et la fiction. Toujours chouette quand, enfin bon là il s'avère que ça avait pas d'incidence, mais c'était voilà, c'était rigolo.
Vous avez un peu mis le bazar dans toute la ville, tout le monde s'est inquiété.
Un peu visiblement.
Ils se sont dit ça y est, c'est la fin du monde.
Eliane, toi t'as un souvenir de tournage en particulier qui t'a marqué?
Je crois que c'est deux choses. C'est un endroit particulièrement dans le film qui m'a beaucoup touchée. Et puis ouais, c'est tout à l'heure Aude parlait de cette intimité. Et il y a un moment d'intimité, je ne sais pas si je spoil, mais entre Hermès et le personnage de Nour. Il y a un moment où le personnage de Nour craque et tout, et Hermès la regarde. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas beaucoup, elle n'échange pas beaucoup, mais directement, elle lui demande depuis combien de temps. Cette question qui montre cette attente non dites des gens qui sont dans leur situation, parce que en fait elle lui demande depuis combien de temps tu es là, comment tout ce processus t'affecte et tout ça. Donc toute cette question, c'est juste cette phrase pour moi porte en elle égorgée de tout ce que quelqu'un peut vivre entre être détaché de sa famille, de la terre d'où cette personne est née, d'arriver dans un territoire où il est complètement inconnu et passe complètement inconnu, marcher dans les rues et personne ne se rend compte que cette personne est là. Et en fait, tout ce qu'on peut vivre en étant dans un processus migratoire ou d'exil. Et donc voilà, cet endroit où elles arrivent à se comprendre. Et ça m'a énormément touchée. Et puis, un autre moment, c'est le dernier jour quand j'ai rencontré les prisonniers de Planète B. Parce que du coup, on n'a pas tourné au même moment. Eux, ils ont tourné à Saint-Raphaël. Et moi, mes scènes se passaient entre Lyon et Grenoble. Et donc, le jour où je les ai rencontrés réellement, je les ai vus déjà voir les marques de torture sur leur visage, les numéros qu'ils portaient et tout ça. Et puis, ces airs.